Salut à tous et bienvenue pour ce 18e podcast de la saison 2 de Vue du Banc. Alors on démarre assez rapidement parce qu'on va avoir beaucoup de choses à aborder vu que la Ligue 1 a terminé sa phase aller. Et donc on va tirer un premier bilan de ce qu'on a vu de ces premiers mois. Et pour ce bilan, on accueille un invité pour la première fois dans Vue du Banc, c'est Julien Assuncao. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous.
Julien qu'on peut retrouver sur Twitter à Birdas. J'espère que je le dis bien, et sur cotestat.fr. Et évidemment, après, comme d'habitude, les deux compères habituels, Raphaël Cosmidis, salut Raphaël.
Bonsoir, bonsoir.
Et Christophe Kuchli, bonsoir Christophe.
Bonsoir, cher compère.
Et ben, on va démarrer de suite, on a décidé de refaire le classement de la Ligue 1 à l'envers, pour changer un peu et un petit peu parler des équipes du bas de classement dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison. Et on va démarrer par le 20e, en l'occurrence le FC Lorient, 20e avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls, 12 défaites, 20 buts marqués, 38 buts encaissés, c'est la pire défense du championnat. Julien, Lorient qui a changé d'entraîneur, qui a été la première équipe à changer d'entraîneur cette saison, juste pour te lancer, qu'est-ce qui se passe à Lorient ? Voilà.
Ouais, bon, changement d'entraîneur, mais on va dire qu'on retrouve un petit peu toujours les mêmes mots que les saisons précédentes. C'est-à-dire bon, une attaque qui est plutôt au milieu de tableau, plutôt bonne, avec des joueurs comme Waris qui sont quand même des joueurs solides. Et puis par contre, une défense plutôt niveau relégable. Beaucoup d'occasions nettes concédées par match. Et quand on ajoute ça au fait qu'ils sont quand même plutôt peu en réussite depuis le début de saison, forcément on les retrouve dernier.
Ouais, Raphaël, une équipe en plus qui défensivement a quand même manqué de... qui n'a pas eu beaucoup de réussite, parce que quand on regarde avec le classement de Julien, avec les expected goals, c'est une équipe qui normalement doit prendre 1,34 expected goals par match encaissé, et ils en ont pris 38. Et pourtant, avec 1,34, on a aussi l'OGC Nice qui en a pris 13. Donc, on a un petit peu les deux extrêmes. Et c'est vrai que Lorient, c'est une équipe qui, au-delà peut-être de ses difficultés, c'est quand même un effectif assez faible, au final, quand on regarde, notamment au milieu et derrière, j'ai l'impression. Ça reste une équipe qui est beaucoup moins bien payée que des Caen, que des Metz qui ont pris des points et qui sont devant eux aujourd'hui.
Ouais, et en plus d'avoir une défense assez friable, ils ont perdu Lecomte sur blessure, qui faisait parfois des miracles hein, sur certains matchs. Alors en ce moment, c'est Delecroix qui joue, mais c'est une équipe en effet assez moyenne. Alors, je suis un peu d'accord avec Julien, je trouve que le milieu de terrain, normalement, devrait permettre de jouer 10e, 12e place, quoi. Quand j'ai vu la ligne de 5, enfin, aligné au milieu de terrain contre Paris, Marvo, Mvuemba, Lotoa, Meslou, Boiris, je me suis dit, c'est quand même bizarre que cette équipe soit dernière. Et puis j'ai baissé un peu le regard et j'ai vu que derrière, c'était Kofi, Zarco Touré, Michael Siani et Vincent Le Goff. Donc tu comprends un peu mieux les mots de cette équipe, en effet, comme disait Julien. Il y a un manque de renfort derrière, il y a un manque de certitude, malgré le changement de système. Alors maintenant, c'est un espèce de 4-1-4-1, un peu comme la fin de Ripoll. Mais c'est vrai que depuis le départ de Gourcuff, finalement, ils n'ont pas réussi à trouver ces valeurs sûres défensivement. Parce qu'il y avait toujours, chaque année à Lorient, une défense qui allait pouvoir t'amener plus haut. Il y a eu Koscielny, il y a eu après... Ensuite, écoulé Manga, et cette année, il n'y a pas vraiment de pépites, quoi. Ils ont récupéré Michael Siani, qui est un peu en fin de parcours, Zarco Touré, qui est un joueur moyen. Et sur les côtés, les latéraux, alors j'ai cru pour déconner que Vincent Le Goff était supérieur à Lucas, parce qu'il avait gagné un duel à un moment et que Lucas m'énervait. Mais sur les côtés, c'est très très faible. Ils perdent les duels très facilement. Ça, c'est un souci dans une équipe comme ça. Surtout que les ailiers comme Waris et Marvo ne sont pas vraiment des joueurs qui vont t'aider à défendre. Et d'ailleurs, Paris est passé tout le temps sur les côtés lors du 5-0 qui s'est passé ce milieu de semaine. Donc c'est une équipe qui part de très loin. Et qui change de coach, mais j'ai pas l'impression que ça ait tant d'impact que ça, et je pense que les chiffres de Julien le confirment à peu près.
Christophe, quelque chose sur Lorient ou on passe au 19e?
Au-delà de tout ce qu'a dit Raphaël, on peut dire que le problème c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont assez bien référencés, mais que tous n'ont peut-être pas la tête à Lorient ou sont pas à leur maximum. On pense notamment à Mesloub qui était peut-être le joueur le plus classe de cette équipe et l'un des meilleurs milieux de Ligue 1, dont, peut-être pas à son poste, mais en tout cas dans le rôle qu'il avait, et qui avait des velléités de départ cet été, qui n'a pas trouvé, qui a été peut-être un peu bloqué par le club, je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé, mais qui en tout cas n'a pas forcément envie d'être là, qui n'avait pas prévu d'être à Lorient cette année, et qui a été plus ou moins écarté à un moment, écrit par Ripoll, etc. Donc il y a aussi, le problème que tous les talents ne sont pas forcément exploités, et que forcément un Mesloub à 50%, c'est pas, tu te mets dans la difficulté, alors normalement ça doit être l'un des joueurs qui doit te tirer vers le haut.
On va passer à Caen, 19e, 18 points marqués, 5 victoires, 3 nuls, 10 défaites, 20 buts marqués comme Lorient, 32 buts encaissés. Julien, c'est un petit peu l'histoire d'une équipe qui avait fait une énorme phase aller l'année dernière, qui a un peu, on va dire, stagné, voire régressé sur la deuxième moitié de saison, et qui finalement est sur la lancée de sa deuxième moitié de saison aujourd'hui.
Ouais, exactement, ils avaient déjà fait une deuxième partie de saison très compliquée. Bon, quand j'avais étudié un peu ce genre de différence entre première partie de saison et deuxième partie de saison, j'avais vu que c'était plutôt la deuxième partie de saison qu'il fallait prendre en compte pour si on voulait prévoir la saison suivante. Et avec Caen, ils marchaient sur des œufs, on va dire, depuis un petit moment au niveau défensif. Leur système de jeu fait qu'il peut avoir beaucoup d'erreurs individuelles derrière. C'est l'équipe qui concède en Ligue 1 le plus d'occasions nettes. C'est pas nouveau, mais on va dire que sur les saisons précédentes, ils avaient équilibré ça avec des meilleures prestations offensives ou même en ayant un petit peu de chance derrière. Mais cette année, depuis la deuxième partie de saison dernière, ils payent cash
ces problèmes-là. Raphaël, il y a aussi à Caen un joueur qui est parti, c'était Andy Delors. Et a priori, Santini, même si je crois qu'il a mis en doublé il n'y a pas très longtemps. Caen doit aussi faire avec la perte de ce joueur-là qui pesait quand même énormément sur leur jeu et qui était très important tant pour courir après les longs dégagements qu'aimer faire sa défense ou bien pour aller gêner la mise en place du jeu adverse au pressing.
Bah c'est vrai que je me rappelle que l'an dernier, en début de saison, quand Caen marchait un peu sur l'eau, ils étaient deuxième ou troisième, on les comparait aussi à Leicester. Dans la façon de jouer. D'ailleurs, j'avais parlé un peu à Manu Imoru pour un papier sur N'Golo Kanté et il disait qu'en effet, Patrice Garrand parlait à ses joueurs de cette équipe de Leicester et de s'inspirer de ce parcours-là. Sauf que quand t'as plus l'attaquant, un peu à la Vardy qui va te faire des différences tout seul par sa vitesse, ouais, par ça. Sa capacité à se projeter rapidement, t'as beaucoup de soucis. Moi, il y avait un joueur que j'aimais beaucoup aussi à Caen il y a quelques temps, c'était Benezé, qui faisait énormément de différences, surtout dans les gros matchs. Et ils n'ont pas réussi à renforcer. Alors, il y a eu Santini franchement, qui me surprend un peu parce que je le trouve emprunté, mais il arrive toujours à marquer ses buts. Mais ensuite, c'est assez moyen, la défense centrale, il y en a 5, il y a 3 défenseurs centraux, mais il y en a 2 qui sont moyens, donc pareil sur les côtés, t'as Bessa et Guidebert qui sont un peu en difficulté. C'est une équipe qui était assez, comment dire, classique, qui jouait de manière assez simple mais efficace, qu'on attendait avec un bloc bas, et on attendait pour contrer rapidement, mais quand t'as plus cet attaquant qui te permet ça, ton projet de jeu s'écroule un peu, et on se rend compte que le départ d'N'Golo Kanté, il est encore là, parce que milieu de terrain, t'as des joueurs qui savent jouer au ballon. Mais t'as plus le mec qui va te récupérer les ballons hauts dans des situations très axiales où ensuite on va pouvoir se projeter. Et ça, c'est un joueur qui est irremplaçable, que tu peux pas trouver si facilement. C'est souvent le problème des petites équipes comme ça, c'est qu'elles ont un projet de jeu clair, mais qu'il lui suffit d'un ou deux départs pour que tout le truc s'écroule.
On enchaîne avec le 18e, on va bientôt sortir la zone rouge. Le FC Metz, enfin il y a beaucoup d'équipes à 19 points en même temps, et le FC Metz en fait partie. 5 victoires, 4 nuls, 9 défaites. 18 buts marqués, 36 buts encaissés, deuxième pire défense du championnat, juste devant Lorient. Julien, une équipe qui a fait un bon début de saison, qui s'est retrouvée, je crois, dans le premier tiers du classement pendant quelques journées, et puis qui, depuis, a quand même assez lourdement chuté, et qui revient un peu là où elle doit être, a priori, vu ce qu'elle montre sur le terrain et dans les chiffres.
Oui, mais c'est l'équipe assez, l'exemple assez typique de l'équipe qui commence très fort le début de championnat, mais tout en ayant des chiffres assez catastrophiques derrière. Et que, bon, même si les supporters sont des fois remplis d'espoir, il y a assez peu de chances que ça tienne sur toute une saison. Ça peut arriver, il y en a qui se sauvent, hein, surtout maintenant qu'il n'y a plus que 2 équipes qui descendent à coup sûr. Ouais. Mais pour eux, ça semblait quand même très mal parti. Hein. C'est la plus mauvaise équipe, que ce soit sur les tirs pour ou les tirs contre qu'on concédait. Mm-hmm. C'est pareil sur les tirs concédés cadrés, les expected goals concédés. Au niveau de la défense, ils sont vraiment, vraiment assez loin du reste de la Ligue 1.
Attends, mais tu veux dire, Julien, que Milan Bizevac ne sauve pas une défense?
Ouais, je suis bien placé pour le savoir. Après, on va l'avoir vécu à Lyon, mais... Non, en tout cas, il suffit pas.
Metz, Raphaël, quelque chose à ajouter, un joueur?
Je suis un peu comme Julien, je trouve que collectivement c'est assez faible, et en plus ils ont perdu Erding, ça fait plusieurs semaines maintenant. Au départ c'était censé être une petite blessure, et là ça fait... Je le sais parce que sur mon petit gazon il est toujours absent et j'en ai marre, mais il n'est plus disponible, et c'était vraiment le joueur qui faisait un peu de différence devant, parce qu'il arrivait malgré ses limites à gagner des duels avec sa ténacité. Après moi ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est qu'ils ont des jeunes très doués, et qui les sauvent un peu ces derniers temps, qui leur permettent de gratter quelques points. Il y a Vion, il y a Enget,
ouais.
Qui commence à être efficace parce que c'est un joueur avec énormément de capacité dans le duel, de 1 contre 1, d'éliminer. Mais jusqu'à présent, il n'avait aucune stat, il n'était jamais décisif. Là, il a marqué cette semaine contre Guingamp.
Guingamp, ouais.
Et voilà, donc c'est peut-être une équipe qui est un peu trop jeune, mais par contre, qui collectionne les talents. Et s'ils descendent ou si en fin de saison ils se maintiennent, mais ils n'arrivent pas à garder leurs joueurs, je pense que la Ligue 1 devrait s'intéresser à cette formation. À la fois à leur méthode et aux joueurs qui peuvent être pris là-bas, parce qu'il y a vraiment du talent.
On enchaîne avec une équipe qui vient de sortir de la zone rouge, le FC Nantes, à la faveur d'une belle série en Ligue 1 et en Coupe de la Ligue. Nantes qui est à 5 victoires, 4 nuls, 9 défaites, comme le FC Metz, 12 buts marqués, pire attaque de Ligue 1, 26 buts encaissés. Christophe, le FC Nantes, en résumé, on va dire heureusement que Sergio Conceição est arrivé, quoi. Pour l'instant.
Nantes, c'est assez bizarre parce que il y a quand même quelques bons joueurs, mais ça prenait pas du tout avec Girard. Je pense que, alors c'est peut-être un petit peu définitif ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que le coaching de Girard était un petit peu dépassé, qu'il allait pas forcément dans le sens de l'histoire sur ses philosophies de jeu qui étaient vraiment de moins en moins efficaces depuis quelques années. Là où j'ai 2-3 réserves sur Nantes, c'est sur le duo d'attaque qui me semble correct, mais pas incroyable, et qui permet pas de bonifier tout le travail des joueurs derrière. Stepinski, Salah, c'est un joueur qui marquait beaucoup dans les divisions inférieures, mais qui en Ligue 1 est quand même assez vite à un plafond de 8-10 buts maximum. Ce qui peut assez vite poser souci. Stepinski, que j'aime bien, est un joueur qui marquait en Pologne, mais qui pour l'instant, alors soit il n'est pas encore tout à fait adapté soit au jeu français, soit il n'est peut-être pas encore suffisamment bon. Mais bref, c'est deux joueurs moyens, et jouer en 4-4-2 avec deux joueurs moyens devant, ça peut assez vite faire que tu tournes en rond. Et c'est un peu dommage parce que derrière, il y a le petit Amin Harit sur le côté qui est un bon joueur. Il y a Gillet au milieu qui, normalement, pour un club de Ligue 1, est vraiment bon. Et je pense que cet effectif ne maximisait pas son talent. Et qu'avec Conceição, là, ça va remonter. Je pense que c'est une équipe qui doit faire entre 8 et 12. Et peut-être plutôt 11-12. Mais là, si tu es avec un entraîneur à poigne qui cadre tout le monde, qui les fait se battre comme des chiens au pressing, tu auras plus d'occasions. Et même si tu es avec deux attaquants qui ont tendance à gaspiller un petit peu, ça va quand même finir par passer et tu vas quand même gagner des matchs.
Non, mais il y a un vrai souci dans le recrutement des attaquants. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 2 ou 3 ans qu'ils recrutent à chaque fois les mêmes attaquants. Avant, tu avais un duo Salah-Sik-Torsson, tu avais Bamou sur le banc, tu as Aristeguieta. Maintenant, tu as Stepinski. J'ai l'impression qu'ils prennent que des attaquants de plus d'1m80 et 1m85, très peu mobiles. Qui en plus ont les mêmes profils à peu près, donc quand ils jouent ensemble, c'est pas complémentaire. Je sais pas, dans les stats, ça dit quoi Nantes, Julien, à peu près sur devant, quoi.
Pourtant, j'ai pas assez vu Nantes, mais par contre, Stepinski, au niveau des stats, c'est plutôt pas mal. Hein. Même il est à 0,65 en but plus passe décisive, donc par 90 mal, minutes, ouais. ce qui est pas mal, notamment parce qu'il a fait déjà 4 passes décisives. C'est pas ce qu'on va peut-être lui demander en premier, mais.
Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver l'attaquant plus mobile pour être autour, ou des mecs sur les côtés qui peuvent te faire des différences. Alors, t'as Harit qui, en plus, j'ai vu quelques matchs de Nantes. Harit est tellement au-dessus du lot qu'il redescend tout le temps, il décroche, il touche tous les ballons. Mais ils arrivent. Je pense que ça fait 4 ans qu'ils veulent jouer en 4-4-2 avec des attaquants moyens, quoi. Donc, ce serait bien que Stepinski, en effet, j'ai vu dans les stats que c'était pas mal, et il me semble qu'il se procure pas mal d'occasions d'ailleurs. Il tire 3 fois par match.
Oui, c'est le joueur nantais qui contribue le plus au tir. Et puis, il a pas eu énormément de. Tant de réussite que ça, donc pour l'instant, ça semble être une faire ce qu'il peut en tout cas, mais c'est peut-être autour de lui que ça pose plus de problèmes.
Il n'y a pas un poste attaquant qui peut aller chercher la profondeur, il n'y a que des mecs qui jouent dos au but et qui sont dans le duel et dans le combat plutôt que dans la création, quoi.
Le problème, c'est qu'à côté de Stepinski, il faut quelqu'un qui puisse bonifier son travail. J'ai l'impression, de mémoire, que ses passes décisives, c'est plus genre des frappes contrées. par la défense ou autre qui profitent et qui reviennent dans les pieds d'un autre joueur. Mais Stepinski avec Salah, t'es sur deux joueurs qui se bonifient pas forcément l'un l'autre et c'est pas super complémentaire. Donc
voilà, c'est ce que je veux dire avec ces profils de déménageurs qui s'empilent, quoi.
Ouais, il faut, si tu prends Stepinski, il faut prendre un joueur autre que Salah avec lui et autre que Bamou aussi. Et ça, c'est le problème de Nantes, c'est qu'ils ne l'ont pas trouvé.
On enchaîne, on passe à Angers, 16e avec 19 points aussi, 5 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 15 buts marqués, 24 buts encaissés. Julien, Angers, une équipe qui dans les chiffres progresse, mais qui finalement au classement, ça se confirme pas. Ça se confirme pas, quoi, puisqu'elle est quand même, elle était deuxième après la phase aller l'année dernière, même si c'était quand même pas le même championnat.
Oui, bon, comme quand ils avaient eu une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée, où ils avaient perdu pas mal de matchs qu'ils avaient gagnés en première partie de saison. Donc, il faut pas s'arrêter à la première partie de saison, mais oui, dans les chiffres, en tout cas, ils ont gardé la même qualité en défense. Les joueurs n'ont pas énormément changé, le style non plus, donc. De ce côté-là, il y a une certaine régularité. En attaque, ils ont pas mal changé. Par contre, il y a eu un grand renouvellement en attaque. On sait que l'année dernière, ils avaient du mal à trouver un attaquant de pointe. Ils en avaient pas, en fait. Quand ils faisaient jouer, bon, Ketko, Fonfon, qui n'était pas forcément le profil de l'attaquant du pur numéro 9. Ils avaient essayé déjà de recruter Yatara en prêt, ce qui n'avait pas vraiment fonctionné, et bon, du coup, ils ont décidé de prendre deux des meilleurs buteurs de Ligue 2 parce qu'ils aiment bien, ils se cassent pas la tête à chaque fois, ils vont chercher en Ligue 2 et là, ils ont récupéré deux des meilleurs buteurs. Et bon, pour l'instant, au niveau individuel, sur ces deux joueurs-là, donc Diédou et Toko et Kambi, ça se passe plutôt pas mal. Ils apportent un vrai plus. C'est devenu donc, ils sont passés d'une des équipes les moins prolifiques au nombre de tirs à la troisième équipe. Donc, derrière Paris et Lyon. Donc,
ce qui est pas mal en quantité. Mais...
Voilà. Voilà. Le problème, c'est, comme tu le pointes, c'est la qualité. Parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui tire plus depuis l'extérieur de la surface en pourcentage du total de tirs qu'eux. Donc, quand on regarde les expected goals par tir, ils sont les plus faibles. Donc, oui, c'est pas forcément la peine de tirer de n'importe où. Et... Pour l'instant, même s'il y a quand même une progression au niveau de l'attaque, ils pourraient faire mieux. Après, en tout cas, leur classement actuel peut-être reflète pas forcément leur performance, parce que en ayant logiquement une défense aussi solide et un petit peu améliorée l'attaque, ils devraient se retrouver en première partie de classement. Et je pense qu'on va les voir remonter au fur et à mesure. Je m'inquiète pas forcément trop pour eux au niveau du maintien, en tout cas.
Christophe, il y avait quelque chose que tu voulais dire sur les coups de pied arrêtés, si je me souviens bien.
Bah, c'est ça, Angers, c'était quand même connu pour avoir un spécialiste des coups de pied arrêtés dans l'effectif, et ça se voyait parce qu'il marquait beaucoup sur ces phases de jeu-là. Ils prenaient assez peu de buts. Et là, cette année, c'est plus compliqué. À la fois, ils marquent moins, ils encaissent beaucoup plus. Sheik Ndoye, qui n'a pas perdu en taille ni en poids, n'a marqué que deux fois. Alors que c'est le gros atout de l'équipe, qui avait marqué 9 buts l'an dernier, c'est quand même assez énorme pour un milieu défensif. Donc, quand tu vois mettre 92-90 kilos, tu comprends, mais soit ils sont moins bien tirés, je t'avouerai que j'ai pas...
Justement, pardon, je te coupe, mais ils ont perdu Ketke Ofomfon, qui était quand même un de leurs meilleurs tireurs avec Mangani, et ouais. Qui avait même mis des coups francs directs, je crois, l'année dernière, quelques-uns, dans mon souvenir. C'est vrai que la perte de Ketkeo fait aussi, je pense, que les coups de franc sont peut-être moins bien tirés cette saison.
Et je crois que Julien aussi avait noté que le changement des gardiens posait problème, parce que l'an dernier, jusqu'à ce que Butel parte, ça marchait très très bien. Il me semble que c'est après son départ en deuxième partie de saison que c'était un peu plus difficile. Peut-être que lui aussi apportait, Julien, dans la surface, plus de sûreté, plus d'autorité, comme le font Michel et Petrich qui se refilent un peu le rôle de numéro 1 là, récemment.
Oui, c'est sûr. Bon, déjà sur les coups de pied arrêtés d'un point de vue offensif, bon, ça on sait que c'est quelque chose qui est quand même assez volatile d'une saison à l'autre. C'est pour ça que ça paraissait compliqué de refaire les performances de l'année dernière. Déjà, je me rappelle de Ndoye qui avait été pris à deux par Lyon une fois qu'il s'était fait avoir et d'avoir pris un doublé sur coup de pied arrêté. Donc les équipes en face vont forcément s'adapter. Et puis de toute façon, voilà, c'est volatile. Ça... Ils sont passés de 34,5% de leurs occasions sur coup de pied arrêté, donc ce qui était absolument énorme, à 22,8%. Donc il y a forcément une baisse. C'est d'autant plus intéressant du coup d'avoir essayé d'améliorer le secteur offensif.
Ouais.
Et après, au niveau des gardiens, oui, on avait un Butel qui était vraiment sur des prestations assez incroyables, qui n'aurait même pas forcément duré sur la longue durée, parce qu'il était vraiment sur des chiffres très très élevés. Et depuis son départ, ils ont pas trouvé de titulaire. Ils ont testé Le Tellier, ils ont eu Michel, Petrich, et au final, il n'y a aucun qui a réussi à concéder moins de buts que d'expected goal subis. Donc, ouais. Ils n'ont pas trouvé ce joueur, alors que Butel, lui, par contre, était largement positif dans ce domaine.
On enchaîne, on passe à Dijon, 15e, 4 victoires, 7 nuls, 8 défaites, 26 buts marqués, c'est la meilleure attaque sur les équipes du bas de tableau, mais 29 buts encaissés aussi. Alors, c'est moi qui vais commencer sur Dijon, mais c'est une équipe que je trouve qui est assez mal payée pour ce qu'elle fait. Elle a perdu beaucoup de points sur des fins de match, notamment à Bordeaux d'ailleurs, où elle menait 2-1 et puis elle s'est inclinée 3-2 dans les arrêts de jeu. C'est une équipe où il y a quand même pas mal de joueurs qui sont plutôt sympathiques. Il y a Loïs Diony devant qui fait un très bon début de saison et qui est peut-être le meilleur attaquant, pareil, de la deuxième partie de tableau, pour résumer. Il y a aussi Mehdi Abeid que je trouve assez intéressant au milieu et Baptiste René qui les sauve assez souvent quand même dans les buts. Du coup, Raphaël, c'est le fameux promu, tu sais, chaque année quasiment, t'as toujours un promu qui monte et qui joue au ballon et qui est pas très bien payé. Je crois que cette année c'est Dijon, quoi.
Ouais, mais ce serait bien qu'il se maintienne, parce que d'habitude celui-là c'est celui qui est coaché par Furlan et il descend, donc ouais. Pour une fois c'est d'ailleurs Furlan qui est très bien placé en Ligue 2 comme d'habitude avec Brest, mais ce serait bien en effet que ça tienne cette saison. En effet, t'as parlé de Diony, c'est vrai que c'est un joueur qui fait, et c'est là qu'il y a beaucoup de joueurs dans ce cas-là qui viennent un peu de Ligue 2, de National, comme Nicolas Pépé à Angers d'ailleurs, dont on n'a pas parlé. Ils arrivent en Ligue 1 et tu te demandes en fait pourquoi ils sont pas arrivés beaucoup plus tôt, parce que dans la manière de jouer, dans les qualités naturelles, ils sont largement au niveau, voire supérieur à la moyenne de la Ligue 1. Donc voilà, c'est des parcours comme ça qui te rappellent que le foot, il y a toujours des mecs qui sont un peu qui passent à travers les mailles du filet. Et que la progression, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais n'est pas linéaire. Quoi. Tu peux être en National un jour et être trois semaines plus tard un des meilleurs joueurs de ton équipe en Ligue 1.
Oui.
Et ça, c'est un bon coup senti de la part de Dijon. C'est, en effet, ils ont fait des paris. Hein. Ils ont fait des paris qui n'ont pas marché, comme Arvin Martin qui s'est blessé et qui prend un très très gros salaire, même si la majeure partie est payée par Lille. Mais voilà, c'est une équipe en effet intéressante. Après, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une équipe qui joue au foot, mais son stade est très mal filmé. Et tu vois à peu près rien quand tu regardes les matchs à la télé pour Dijon. Déjà qu'il y a du brouillard, alors en plus c'est filmé à 5 mètres de hauteur, donc c'est pas toujours un plaisir. Quoi.
Tu étais devant Marseille, devant Dijon-Marseille. Christophe, sur Dijon, quelque chose à rajouter ou pas?
Non, pas spécialement.
Bon. Et Julien?
Non, bah, juste dire que généralement ces équipes-là qui peuvent créer du jeu intéressant régulièrement, bah c'est la défense qui les perd, et c'est aussi le cas pour Dijon. De toute façon, ces promus comme Metz, au final, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, si derrière il y a des problèmes défensifs, ça bloque tout.
On enchaîne avec Bastia, 20 points, 5 victoires, 5 nuls, 9 défaites, 17 buts marqués, 23 buts encaissés. Je repars voir Christophe. Bastia... Une équipe au final dont on a surtout entendu parler sur ce qui se passe à côté, mais c'est vrai qu'on est assez peu à les avoir vus jouer. Moi, je les ai vus face à Bordeaux et c'était un match
la pelouse encore là, contre Marseille.
Très classique de Ligue 1. Alors ils ont Saint-Maximin, Bifouma devant, mais c'est vrai qu'au final c'est une équipe qui change pas trop d'année en année.
Ouais, là c'est j'ai l'impression que c'est Saint-Maximin qui les tient vraiment, parce qu'ils ont pas mal de blessés, c'est un petit peu compliqué de faire l'équipe en ce moment. Bon, il y a Crivelli qui a marqué 6 buts, ce qui les a pas mal aidés. Après, c'est sur ces équipes là, enfin la Bastia est 14e, ils sont 1 point devant Metz, 2 points devant Caen. Donc il y a vraiment rien de définitif, et comme je disais, Saint-Maximin notamment sur les derniers matchs, c'est vraiment le facteur qui leur permet de bonifier une équipe qui autrement est moyenne. Alors Bifouma, c'est un joueur qui était à son top à 17-18 ans, qui maintenant en a 24, mais voilà, je pense qu'il fera jamais vraiment une bonne carrière. Et ensuite, après, on est plutôt sur des Grognards, sur des Cahuzac, sur des Danik, sur des Mostefa, des joueurs habitué à la Ligue 1. Il y a Skilacci, Sioni qui sont toujours là. Il y a un très bon gardien. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a quelques années, c'était un deuxième gardien qui revient en grâce, un peu comme Butel qui à un moment jouait carrément avec la CFA au LOSC, alors qu'il était à 26-27 ans, à une des périodes où normalement un gardien doit être titulaire. Mais je pense que Bastia va se maintenir, mais c'est difficile d'avoir des choses à dire sur cette équipe qui prend généralement pas mal de points à domicile.
Ouais, pour le coup, ça change un peu cette année. C'est ça qui change.
Ouais.
Ils ont déjà 3 défaites à domicile et 4 matchs nuls hein, sur 10 matchs. Donc attention.
Saint-Maximin, tu vois, le cas de Saint-Maximin, il est intéressant parce que ce joueur-là, il était à Saint-Etienne, il décide de se barrer. Bon, pourquoi pas. Il perd du temps. Là, il arrive en 2016 à Bastia, il est titulaire. Et tu regardes Saint-Etienne jouer au football et tu te dis, putain, s'ils avaient Saint-Maximin devant, les différences qu'ils pourraient faire. Je comprends pas parfois des carrières comme ça qui sont très très mal gérées. Alors il va forcément retourner un jour. Il est parti encore à Monaco ou pas?
Je crois, oui.
Il va finir par retourner à Monaco. Mais j'ai l'impression qu'il a perdu du temps à vouloir forcément partir très vite. Alors qu'à Saint-Etienne, ce serait exactement le profil dont ils ont besoin. Eux qui ont beaucoup de joueurs moyens devant qui sont très peu dans la différence individuelle. On en parlera tout à l'heure, mais ça me. Je comprends certaines carrières, je comprends pas pourquoi, ni pourquoi Saint-Etienne a fait le forcing pour lui expliquer tu peux rester là, tu vas forcément avoir une place parce que devant on est moyen, ni lui qui s'est dit bon, j'ai du temps, voilà. Pourtant le mec a un très gros QI, hein, mais c'est dommage.
On enchaîne avec Nancy, 13e, 21 points, donc on monte un peu, on sort un peu, on s'éloigne de la zone rouge. 5 victoires, 6 nuls, 8 défaites. Nancy, Julien, c'est un petit peu comme Bastia, hein. C'est une équipe. On va dire ils ont recruté quelques anciens, Diarra, Pedretti cet été pour tenir leur milieu de terrain. Enfin non, Pedretti était déjà avec la Ligue 2. Mais voilà, ça défend. C'est une défense collective parce qu'individuellement derrière, il y a rien de fou. En tout cas, pour les avoir vus face à Bordeaux notamment, derrière c'est pas exceptionnel. Mais voilà, ça défend en bloc. Hein, Pablo Correa, on connaît. Et c'est vrai qu'ils avaient eu du mal à marquer des buts en début de saison. Et puis finalement ils ont eu une bonne série là fin novembre je crois début décembre et puis ça les a un petit peu éloignés de la zone rouge.
Oui, bah Pablo Correa, attention, apparemment l'année dernière ça jouait Joga Bonito en Ligue 2 et il est reparti plus défensif en Ligue 1. Bon, c'est pas, ils ont pas eu un début de saison extraordinaire au niveau des chiffres, mais c'est vrai que le fait que ça soit parmi les promus, peut-être c'est l'équipe qui sait à peu près défendre. Ça peut les aider parce que c'est plus facile, j'ai l'impression que c'est plus facile quand même de se maintenir quand on a une défense plutôt que quand on a une attaque qui peut faire des coups de temps en temps. Dans la régularité, généralement les prestations défensives sont plus régulières que les prestations offensives. C'est plus facile d'être à un bon niveau tout au long d'une saison. Donc peut-être que je dirais que c'est peut-être le des trois promus, celui qui est
le mieux armé.
Il peut finir le plus haut en fin de saison et se maintenir.
D'accord. Ils ont des bons joueurs au milieu quand même. Aïd Benacer, Marchetti, Pedretti. Il y a du talent à la fois chez les vieux et chez les jeunes. C'est intéressant. Bon, après, en effet, Correa est revenu à un style plus défensif. Mais quand tu as des oppositions comme ça, c'est plus logique. Mais pareil, c'est un peu comme Metz. Si ça descend, si ça finit en bas de classement, il y a des joueurs. Bon, Aïd Benacer va retourner à Monaco parce qu'il a été acheté par Monaco. Mais Marchetti, des joueurs comme ça, ça peut être intéressant. Ouais.
Et sur Nancy, pour terminer, je parlais de leur bonne série. Depuis la mi-octobre et la défaite face au PSG, c'était la 9e journée. Ils n'ont perdu que 2 matchs sur les 12 matchs qu'ils ont joués, donc en championnat et en Coupe de la Ligue, avec 3, 4, 5 victoires et 5 matchs nuls, donc, et 2 défaites. Donc voilà, un promu qui a su se relever. On enchaîne avec l'équipe au final que suit Christophe, Lille, qui est 12e. 6 victoires, 3 nuls, 10 défaites et un changement d'entraîneur il y a un mois à peu près, je crois. Un changement d'entraîneur qui a pour le moment apporté ses fruits et puis maintenant on attend l'arrivée de Gérard Lopez et d'un nouveau coach peut-être.
Bah peut-être, mais peut-être pas parce que là les dernières nouvelles d'hier et d'aujourd'hui sont que notre ami Campos, qui suit de très près tout ce qui se passe, même s'il n'est pas encore en fonction et supervise entre guillemets le travail de Patrick Colo en tant qu'entraîneur, on dit qu'il serait vraiment très, très séduit par ce qui se passe, même si forcément ça obligerait un petit tour de passe-passe administratif parce que Colo a passé diplôme, donc il faudrait un prête-nom, mais apparemment ils en ont dans les équipes de jeunes. Mais ouais, le travail fait par Colo, au-delà de ce qu'en pensent ses futurs supérieurs, il est bon à la fois. Enfin, il est bon déjà surtout au point de vue des résultats et des points pris. Dans le jeu, ça fluctue un peu, mais c'est quand même pas mal, même si là, récemment, c'était un petit peu moins bon. Ce qui a vraiment changé, là, pour le coup, on n'est pas sur le choc psychologique. Même si bien sûr ça a joué, il y a vraiment un changement dans le jeu, la composition d'équipe et dans le jeu. Et ce qui faisait Antonetti, à qui il faut donner beaucoup de crédit pour la fin de saison dernière, mais c'était quand même dépassé. Il faisait constamment jouer sans carré Amadou,
Mavuba,
au milieu de terrain, avec souvent Mavuba autour. Ouais. Quand il y avait Obadi, il mettait Obadi qui était légèrement plus offensif et légèrement meilleur joueur de ballon. Mais ça restait quand même trois milieux avec deux minimum à vocation défensive. Et en ce moment, jouer en 4-3-3 avec trois numéros 6 ou 2-6 et un 8, c'est quand même relativement moyen. Et forcément, il y avait beaucoup de mal à créer. Et comme en plus les ailiers étaient vraiment pas en forme, et ben en gros t'avais que Eder devant et l'équipe coupée en deux. Là, Colo joue de manière différente. Il y a Ronnie Lopez, Litti, généralement Benzia qui sont ensemble sur le terrain derrière Eder. Et donc là, le 4-2-3-1 avec là t'as toujours tes deux purs numéro 6, mais t'as trois joueurs offensifs pour soutenir Eder et en plus des joueurs qui sont en forme parce que Benzia qui était au placard. Revient pas mal, même si le dernier match c'était moyen. Sliti monte en puissance après un transfert tardif et là atteint un bon niveau. Et Lopez revient de blessure. Donc ce qui fait que t'as une équipe qui est plus mise en valeur par le système tactique et des joueurs qui en plus reviennent en forme en ce moment. Donc l'un dans l'autre, ça fait que tu retrouves des résultats qui sont plus cohérents et que tu peux espérer revenir dans le top 10, la place que doit occuper cet effectif.
Il y a un joueur que t'as pas cité. Que je trouve pourtant assez excellent, c'est Nicolas Depréville, dont je suis assez fan, et pour moi c'était peut-être la recrue que j'aurais bien voulu avoir à Lyon, en doublure de la Lacazette, et puis bon, il peut jouer un peu partout, bon tireur de coups de pied arrêtés, à la fois capable de marquer mais aussi de faire jouer ses coéquipiers. C'est notamment le joueur à Lille qui actuellement contribue le plus au tir, donc c'est-à-dire ou en tirant lui-même ou en faisant des passes clés à ses coéquipiers. Il est même assez largement au-dessus des autres au niveau des expected goals créés. Il avait commencé assez moyennement, on va dire, en début de saison. Il avait aussi pas forcément joué énormément, mais là, depuis un petit moment, j'ai l'impression qu'il est en très grande forme et ça me fait plaisir de le revoir. Et je pense que ça peut être un joueur très important pour eux.
Moi, je trouve aussi qu'il y a un joueur qui prend une autre envergure. On en avait un petit peu parlé, je ne sais plus quand d'ailleurs, mais c'est Amadou, qui en plus dans cette équipe où maintenant tu vas avoir beaucoup plus de joueurs tournés vers l'avant et beaucoup plus de joueurs à vocation offensive, mais avoir ce joueur-là qui me semble avoir la caisse pour justement tenir et maintenir l'équilibre de l'équipe pendant 90 minutes, je trouve ça assez intéressant comme éclosion et je pense que c'est la prochaine grosse vente de Lille, peut-être pas dès le mois de janvier, mais ouais, en première ligue, ouais, qui va suivre les traces de d'Idriss Agueil, même si le profil est un peu différent.
Et c'est pour ça que le recrutement de Sankaré était peut-être un petit peu redondant, même si c'était pour remplacer Balmont.
Bah après, Sankaré, c'est plus un 8 qui se projette plus que ce qu'on font les deux que Amadou, qui est plutôt un mec qui surveille devant la défense. Quoi. J'ai l'impression que Sankaré, on se trompe un peu depuis le début sur sa carrière. À chaque fois qu'il a joué ou qu'il a bien joué, c'était en allant très vite dans la surface adverse. À Guingamp, c'était comme ça avec Gourvenet qu'il était bon. Alors c'est sûr, si tu lui demandes d'être bon dans un jeu de possession avec 55% et de faire la différence sur attaque placée, il sera pas là pour le faire, mais c'est un joueur qui a un registre intéressant, un peu comme Diallo qui est à Guingamp, qui continue de faire des différences, voilà. Des joueurs comme ça. Voilà. Si tu lui demandes un peu trop, il va être en difficulté.
Alors on enchaîne avec Montpellier, 11e, 22 points, 5 victoires, dont une face à Bordeaux qui était assez douloureuse, 7 nuls et 7
défaites.
Et c'est une face au PSG, oui. 7 nuls et 7 défaites, 28 buts pour, 31 buts contre. D'ailleurs, ces deux victoires, je vais démarrer là-dessus. C'est Julien, donc 4-0 face à Bordeaux, 3-0 face à Paris. Mais si on se penche sur les expected goals, on a une équipe qui était vraiment sur régime sur ces deux matchs. Alors, est-ce que c'est le talent de Boutbouz, de Sanson, etc., qui leur permet de marquer des buts un petit peu venus d'ailleurs, ou Paul Lane, qui a mis des frappes de loin, je crois, sur ces deux matchs aussi. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est peut-être un petit peu en sur-régime sur le plan offensif. Elle marque plus que ce qu'elle devrait, ou alors elle a plus de talent et elle a plus de joueurs qui sont capables de finir des actions compliquées.
Sur ces deux matchs, je me rappelle il y a quelques buts qui étaient assez incroyables. Mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment très représentatif du reste, parce que sur le reste, moi je les ai plutôt peu en réussite, bon, pas forcément offensif, mais sur la globalité. Je les faisais plutôt 5 points en dessous de ce qui devrait être, entre guillemets.
D'accord.
Donc pour moi, ouais, Montpellier, c'est vraiment l'équipe qui a un effectif qui est assez cohérent et qui est justement plein de bons joueurs. On a cité Boudbouz, un joueur comme Sanson qui est quand même à un niveau assez incroyable cette année. Un joueur comme Mounier qu'on parle assez peu dans les révélations de l'année, et pourtant
l'avant-centre,
j'ai vu
pour préciser.
Au niveau statistique, qui est vraiment un des joueurs qui sort vraiment bien du lot. Je crois qu'il est dans le top 5 du championnat, donc ils ont quand même un certain nombre de bons joueurs qui pourraient leur permettre de viser plus haut et de faire partie de ces équipes. Par exemple, ils peuvent très bien être à la place d'une équipe comme Saint-Etienne. Hein, et je pense qu'au final, ils ont peut-être plus de joueurs talentueux que Saint-Etienne.
Raphaël, leur problème à Montpellier, c'est peut-être derrière la défense, les gardiens. C'est peut-être un peu plus faible que, bah justement, que Saint-Etienne et que ces équipes qui sont dans le top 10 à l'heure actuelle.
Bah, en tout cas, apparemment, Hans veut se délester de Jourdren. Et puis ils ont enfin trouvé une hiérarchie chez les gardiens avec Pionnier qui apparemment a pris le poste de numéro 1. Après, ouais, comme a dit Julien, ils ont des joueurs exceptionnels, que ce soit au milieu ou devant, des joueurs de très grande qualité, mais derrière il y a que Vito Hilton qui a une valeur sûre en fait.
Ouais.
Il y a un Congrès qui avait fait une très très grosse saison à Toulouse à l'époque et qui depuis, à chaque fois qu'on le voit jouer, est en difficulté. Et donc ils ont du mal à trouver un partenaire à cette défense centrale, mais en effet ils ont des... Bon, après moi ce qui me fait peur c'est que si l'an prochain Sanson ou Boudbouz voire les deux partent, ce qui me semble pas improbable, c'est que la cellule de recrutement de si cher à Louis Nicolin ne parvienne pas à remplacer les joueurs comme ça, parce que tu peux pas remplacer un Sanson très très facilement, et ils n'ont pas forcément des moyens conséquents pour le faire. Voilà. Donc malgré ce que dit Julien et les bons chiffres, et en effet j'avais l'impression que c'est une équipe qui a eu un ou deux départs, si tu veux, de jouer le maintien de manière très ric-rac, quoi. Donc là, normalement, ça partira pas cet hiver, mais l'an prochain, il m'inquiète un peu.
Pour compléter sur les gardiens, rapidement, bon, je suis totalement d'accord. Au niveau des chiffres, j'ai Jourdren comme étant, on est très tôt dans la saison, mais le pire gardien de Ligue 1 et Pionnier en deuxième meilleur. Donc je pense que la hiérarchie, ouais. En tout cas au niveau des chiffres, elle est claire.
On enchaîne avec Bordeaux. Bordeaux 10e, 25 points, 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 20 buts marqués, 26 buts encaissés. Alors vous allez me permettez de lancer un petit peu sur Bordeaux.
On s'en fiche, je fais tout. Vas-y.
C'est très 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 moyen. Ça avait bien démarré, même s'il y avait quand même avec une victoire contre Saint-Etienne, une victoire à Lyon, une victoire contre Nantes, avec un peu de spectacle en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand on regardait le détail de ces matchs, la victoire contre Saint-Etienne, ça mène 3-0, ça se fait remonter 3-2. Et il ne fallait pas que ça dure 5 minutes de plus. Contre Nantes, tu mènes 1-0 et en deuxième mi-temps, tu produis rien. Et puis contre Lyon, tu prends le premier but. Et après, tu reviens, mais parce que Lyon marque le premier but et se relâche et te laisse jouer au final. Parce que le vrai problème de Bordeaux... aujourd'hui, c'est la transition de la défense au milieu de terrain. Parce que quand tu as 4 attaquants, sur le papier, le meilleur au début de la saison, la meilleure équipe et le meilleur quatuor offensif, c'était Malcolm, Ounas, Menez et Roland. J'allais dire Laborde, mais ça, c'est pour la suite. Le problème quand tu as ces 4 attaquants, c'est que vaut mieux les atteindre en ayant le ballon au sol et surtout leur offrir des solutions de manière à ce qu'ils soient proches les uns des autres pour qu'ils puissent combiner. Et le vrai problème de Bordeaux aujourd'hui, c'est pour les sorties de balles. Ça a été récurrent en 4-4-2. Ça a été un petit peu tempéré par le losange. Un passage en losange, c'était face à Lorient, qui avait permis de faire quelques bonnes phases de jeu et notamment inscrire de jolis buts collectifs. Le problème du losange, c'est qu'ensuite, défendre en losange par rapport à défendre en 4-4-2, ça n'a strictement rien à voir. Du coup, fallait changer ça, alors que ça avait plutôt bien marché sur la première moitié de saison, la phase sans ballon, et excepté sur coup de pied arrêté, la défaite contre Toulouse. Et ensuite, ça te donne l'équipe actuelle, où tu arrives à un moment où tu as des joueurs qui sont pas performants. Menez qui a été recruté et qui coûte très cher aujourd'hui en salaire. Malheureusement pour lui, l'info est sortie. 250 000 balles par mois, bah, il produit moins que je crois tous les autres joueurs offensifs des Girondins. Je crois que Julien pourra confirmer. Il
Ouais,
produit
c'est ça.
moins tant en tir qu'en frappe, qu'en passe, etc. Donc c'est quand même un petit peu ennuyeux. Ça veut dire que c'est un joueur dont on pourrait se séparer et on ne verrait pas la différence puisqu'il y a un jeune qui sortirait et qui en ferait autant. Donc ça, c'est très gênant. Et en plus, l'autre déception, bah, c'est Toulalan qui était censé permettre de gérer justement ces fameuses sorties de balles dont je vous parlais tout à l'heure et qui lui aussi n'est pas au niveau attendu et qui d'ailleurs d'après ce que j'ai pu entendre pourrait ne pas être retenu s'il trouve autre chose. Voilà, déjà 6 mois après. Donc voilà, on va voir sur la deuxième moitié de saison parce que de toute façon sur le plan offensif l'équipe ne peut que progresser vu les joueurs que Gourvennec a à sa disposition. Et après bah, défensivement il va falloir que certains hausse leur niveau de jeu. Pallois, qui avait fait 6 bons mois quand il était arrivé parce qu'il était très bien physiquement et présent dans les duels, aujourd'hui c'est peut-être le défenseur central le plus faible que les Girondins ont aligné depuis le début de la saison, sachant que Levtchouk est une satisfaction. Mais voilà, aujourd'hui c'est 10e. Je pense que ça descendra pas beaucoup plus bas. Mais la vraie difficulté, c'est que quand tu vois les équipes au-dessus, ben, tu les imagines pas forcément aller plus haut non plus, en tout cas avec ce qu'ils proposent. A
Bah,
priori, on verra
mais
au
je pense que
mercato, je vais vous lancer là-dessus. Au mercato, ça annonce une recherche d'un latéral gauche, d'un milieu défensif, petite dédicace à Jérémy Toulalan du coup, et d'un avant-centre, sans doute une dédicace aussi à Jérémy Ménez. Donc voilà.
ce qui est dommage, Flo, c'est que quand on regardait l'équipe, enfin, en tout cas les joueurs la saison passée, Ounas, Malcolm, quand on a vu les arrivées, Sabali, Ménez, on s'est dit putain, c'est une équipe qui peut faire un bond, tu vois, en termes de qualité. Qui peut aller jouer quatrième, cinquième avec les joueurs qu'ils ont, même Toulalan, s'il arrivait dans un projet un peu plus clair. Bon, là, il n'a pas l'air d'être très présent ni dans la tête ni dans le jeu. Mais quand je voyais l'effectif de Bordeaux début de saison, je me dis putain, ça joue top 5, quoi. Et finalement, bah, c'est comme les saisons précédentes, c'est très très moyen, c'est neutre, les jeunes n'arrivent pas vraiment à progresser ensemble. Roland continue de frustrer les supporters, si je comprends bien ce qui se passe là-bas.
Ouais, bah, Roland, c'est de toute façon, c'est un joueur qui a fait sa saison à 15 ou 16 buts là, il y a quelques saisons, mais il l'a fait un petit peu par défaut parce que à ce moment-là, Bordeaux n'avait plus de buteur et c'est lui qui s'est retrouvé dans cette position de buteur. Et il ne sait mettre que de toute façon des actions où il marque, où il est dans les 6 mètres, où il coupe dans la surface, ou voilà. Mais il crée pas grand-chose à côté. Et le vrai problème aujourd'hui de Bordeaux, c'est sur le plan de la créativité, c'est qu'il y a y a quasiment aucun joueur devant qui est là pour créer pour les autres, pour se sacrifier pour les autres.
Et en plus, Certic là que j'aime beaucoup derrière, et apparemment il est annoncé à Orlando.
Ouais, il a annoncé, ça a été
Si.
démenti, ça, on sait
Ah bon?
pas, on va voir quoi.
Non,
Pour
parce que
l'instant, on sait pas.
je l'ai encore vu jouer contre Nice, bah, là, justement au milieu de semaine, et t'as certaines interventions où tu dis, ouais, joueur de classe quand même, quoi.
Ouais,
Joueur qui va se relancer
quelques
proprement,
transversales très sympas.
qui va ressortir proprement, qui va pas paniquer sous la pression, tu vois, tu te dis, mais pourquoi ce mec irait à Orlando, même si j'imagine que le cadre de vie est plus sympa. Bon, Marc Bordeaux, c'est sympa aussi,
On sait pas,
Mais
ouais.
peut-être qu'il en a marre de Bordeaux et que ça progresse pas et qu'il veut se barrer, quoi. Mais je trouve dommage de pas conserver le seul, puisque maintenant c'est un défenseur central, le seul défenseur central capable de faire avancer le jeu dans cette équipe.
Levtchouk peut le faire aussi, il prend ses responsabilités là aussi. Mais
Ah.
bref, on verra quoi. Bordeaux là, déjà on va voir le mois de janvier parce que ça annonce un mercato très agité, donc à suivre.
D'ailleurs.
On enchaîne avec Toulouse, et pour Toulouse, on va aller
Ah.
voir Christophe pour parler de l'équipe qui était censée devenir le Leicester de la Ligue 1 en début de saison et puis qui finalement est rentrée dans le rang.
Suis vraiment obligé de parler de Toulouse. Non, je rigole. Ouais, qui rentre dans le rang et qui rentre dans le rang, qui rentre à sa vraie place finalement. Je pense que sur le plan tactique, cette équipe était correcte sans être incroyable. Et je pense qu'il y avait quand même un gros aspect motivationnel qui leur
Oui.
permettait de se transcender et qui forcément finit par un petit peu s'estomper au bout d'un moment.
Physique aussi.
Donc physique également. Enfin, en fait, tu tirais sur une corde qui était destinée à peut-être pas à casser, mais en tout cas à être plus lâche au bout d'un moment. Et là, Toulouse est 9e, ce qui est une position tout à fait honnête compte tenu de l'effectif qui est quand même très jeune. Et tu dépends finalement du talent de quelques joueurs pour passer un cap ou non. C'est-à-dire que si Braithwaite, voire Toivonen sont en réussite, et ben tu peux surperformer, et s'ils sont moins en réussite, et ben tu peux assez vite retomber peut-être pas dans l'anonymat, mais dans le ventre mou. Alors il y a deux, trois belles surprises. Il y a Julien, le défenseur central, qui confirme sa bonne saison de l'an dernier, qui est déjà à 3 buts après ses 9 de l'an dernier en Ligue 2, et qui, au-delà de sa taille, est quand même relativement solide et un peu moins coupable d'erreurs que Diop ou que d'autres en défense. Et t'as Bodiger, t'as des joueurs comme ça qui sont en train de prendre de l'expérience petit à petit. Il y a Trero qui est toujours un joueur très classe et peut-être même
il joue
entre
plus
guillemets
trop
fort.
Là.
Qui joue plus trop.
Ouais, il a été blessé, hein, il a raté des matchs aussi à cause de ça.
C'est depuis, on l'a quasiment pas vu là depuis octobre. Mm. Mais on reste quand même sur un effectif de milieu de tableau qui a une place en milieu de tableau qui serait légèrement plus basse s'il n'y avait pas eu ce départ canon. Mais je pense qu'il y a rien de choquant. Là, on est sur juste la seule inconnue pour moi, c'est est-ce que Hudson Edouard va peut-être passer un cap ou pas. Pour moi, c'était un joueur, là, il a un but. Je pensais qu'il pouvait peut-être pas en mettre 15, mais en apporter 7-8. Et pour l'instant, il a un peu de mal à bousculer la hiérarchie. Et quand il a eu sa chance, il ne l'a pas forcément saisi. Donc à voir, parce qu'au-delà de Toulouse, c'est un joueur qui était très coté et qui pouvait, pourquoi pas, faire le bonheur de Paris dans quelques années, voire de l'équipe de France. Là, pour l'instant, il ne confirme pas encore ce qu'il a montré en jeune, où il était largement au-dessus, notamment grâce à un physique plus avancé que les autres.
C'est peut-être donc pour ça voir. qu'il a du mal à sauter le pas, quoi. C'est qu'il n'a plus l'avantage physique qu'il avait dans la catégorie de jeune. Donc c'est difficile. Mais après, je pense que je suis assez d'accord avec Christophe quand il dit que c'est un effectif qui est à sa place. Duprat a fait vraiment des choses intéressantes avec cette équipe, notamment dans les gros matchs contre Paris et Monaco, où il a mis un pressing très intense, très fort en début de match. Qui n'est pas forcément très répandu en Ligue 1, où les équipes ont préféré défendre bas. Mais
attention à Monaco, hein, parce que Monaco, j'avais vu le match. Toulouse n'y est justement absolument pas dans le début de match.
Monaco avec notre équipe alors.
Monaco se crée. Bordeaux prend 2 buts en 5 minutes. Hein, à
peut-être
Toulouse,
peut-être
par
Bordeaux, mais contre Paris, je sais qu'il s'est pressé très haut comme ça. En début de saison, il le faisait très souvent dans les rencontres. C'est qu'en début de match, il faisait la différence. Peut-être que justement, ça peine un peu physiquement là, à l'approche des fêtes. Ils ont eu du mal justement à faire la différence. Mais si on avait dit en début de saison, après une saison où ça jouait le maintien, Duprat va faire 26 points à la trêve et ils vont être 9e, franchement, c'est excellent, quoi.
Et au final, Julien, on parlait tout à l'heure avec Caen de l'équipe sur la lancée de sa saison précédente. Toulouse, c'est un autre exemple.
Oui et non, parce qu'en fait, je trouve qu'ils ont quand même pas mal changé au niveau de leur style de jeu. L'euphorie de cette fin de saison, Duprat est reparti vraiment sur une équipe qui essaie d'être assez négatif entre guillemets dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils essaient de réduire au maximum le nombre d'événements dans un match, c'est-à-dire les tirs par exemple de leur côté, mais aussi de l'adversaire. C'est l'équipe qui est le moins spectaculaire, on va dire. Si on suit ces matchs, tous les matchs, on va peut-être plus souvent s'ennuyer avec Toulouse. J'ai l'impression que c'est un choix qui, en début de saison, ça repartait, il a décidé de repartir sur des bases peut-être plus restées déjà solides. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que c'est vraiment l'équipe qui a besoin de un ou deux joueurs en très grande forme pour gagner des matchs, et c'est justement lié à ça aussi. Ils ont tellement peu d'occasions dans un match que quand ils ont une occasion nette, il faut qu'elle soit marquée. C'est un peu comme l'Atlético qui a la chance avec Griezmann d'avoir par exemple un joueur qui, s'il y aura une seule occasion, elle sera mise au fond, et gagner un peu des matchs comme ça. Qui est peut-être un peu moins de cas récemment, où ils sont un petit peu plus diversifiés de leur attaque, mais ils ont ce côté-là. Et donc Braithwaite, qui en début de saison était vraiment en feu, un joueur qui a l'habitude plutôt d'avoir énormément d'occasions mais de tout louper, était en feu en début de saison. Donc ça leur a permis justement de faire cette super série. Et quand s'il n'est pas là pour marquer, ça va être tout plus compliqué, parce qu'ils ont quand même un effectif qui est assez limité en taille, en tout cas, dans les joueurs offensifs. Derrière, c'est Braithwaite, Durmaz, Trero, il n'y a plus grand monde. Donc, c'est ça aussi qui, sur une durée d'une saison entière, la moindre blessure, ils perdent tous ces facteurs pour faire la différence dans un match, parce qu'ils n'en ont pas énormément.
Allez, on enchaîne avec Saint-Étienne.
Ah, enfin, que, du football,
que beaucoup, beaucoup attendaient. Huitième, 26 points, 6 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 18 buts marqués, 16 buts encaissés, très bonne défense,
répète,
très mauvaise attaque.
Buts marqués,
18 buts marqués, 18 buts marqués en 19 matchs.
Ah,
bah, Raphaël, t'as l'air chaud, tu vas commencer.
Non, bah, on a eu cette discussion avec Julien hier soir sur le côté structure salariale de Saint-Etienne. Moi, je pense que parce que les salaires justement sont sortis par l'équipe. Alors, c'est une équipe qui a une structure salariale très homogène, un peu comme Rennes, où il y a très peu de joueurs qui sont au-dessus des autres. D'ailleurs, peut-être les 10 ou 11 titulaires sont payés à peu près pareil.
C'est ça.
Je pense qu'ils ont à la fois un problème dans le recrutement, où ils ont un recrutement très franco-français, et quand ils recrutent pas franco-français, c'est des joueurs qu'ils ont vus contre eux ou qu'ils ont vus quelques fois, genre Söderlund, qu'ils ont recruté sur deux matchs. Ils ont un problème là-dessus. Et aussi, comme ils prennent pas de risque dans le recrutement et qu'ils prennent des joueurs qui sont confirmés en Ligue 1 mais qui n'apportent pas une plus-value ou une différence dans le jeu terrible, et comme ils n'ont pas de salaire, comme ils ont un salary cap qui leur empêche de prendre des joueurs très bien payés, contrairement à ce que Nice a fait cette saison avec Dante, avec Balotelli. Bah, c'est difficile de faire progresser l'équipe. C'est-à-dire qu'ils enchaînent des saisons et ils empilent des joueurs pas catastrophiques, mais moyens. Et ils n'ont pas réussi à avoir ce joueur en plus qui va faire la différence depuis qu'ils ont perdu Aubameyang, qui était ce joueur supérieur aux autres. Quand Amouma n'est pas là, et d'ailleurs Amouma il a atteint le pic de sa carrière et je pense qu'il n'arrivera plus à progresser. C'est un joueur qui arrive proche de la trentaine, il me semble. Voilà, je suis pas convaincu par leur structure salariale s'ils veulent continuer à progresser. Après, on tape souvent sur Galtier. Moi, je suis pas un grand fan du jeu qui est pratiqué par Saint-Etienne, mais ça fait 4-5 ans qu'il arrive à les placer 4-5e malgré le manque de renfort. Voilà, je pense que s'ils veulent passer un cap, il va falloir changer la manière de travailler, la manière de recruter, la manière de payer les joueurs. Parce que quand tu regardes les joueurs aujourd'hui, il y en a même les joueurs qui peuvent être vendus, je suis pas sûr qu'il y en a un qui peut partir à plus de 12 ou 13 millions.
D'ailleurs, quand on regarde, c'est vrai que le salary cap de Saint-Etienne, je crois, de tête, c'est en effet beaucoup de joueurs entre 80 et 90 000 euros par mois. Et quand on compare avec, tu parlais de Nice, qui a un salary cap qui explose pour 3 joueurs, un petit peu comme le concept du Big Three à NBA, ou le concept des, je crois que c'est des clubs portugais qui travaillent beaucoup comme ça, avec 3-4 joueurs qui sont surpayés et d'autres joueurs qui sont en dessous de la moyenne du championnat.
En MLS aussi.
En MLS aussi.
Les contrats protégés.
Et Nice a sans doute trouvé la meilleure solution, même si après, bon, Nice a quand même eu des rentrées d'investisseurs, je pense, qui leur permettent aussi d'avoir
Nice
ça.
Aussi, c'est le scouting a fait des différences énormes.
Ouais.
Là où Saint-Etienne va chercher Pajot libre il y a un an, bah, Nice, ils vont chercher Cyprien, ils le payent 30 000 euros, alors que Pajot prend le double, quoi. Donc là-dessus, tu fais des différences énormes, et je pense que Saint-Etienne a besoin de changer de manière de recruter, soit payer plus les joueurs et trouver des meilleurs joueurs plus facilement, parce que quand t'as de l'argent, t'as moins besoin de scouter, quoi. Et ils sont en vraie difficulté dans ce domaine.
Je pense que Raphaël a fait le tour sur Saint-Etienne.
Oui, alors juste,
ouais.
Raphaël, il parlait donc de joueurs moyens plutôt que de mauvais joueurs, et je pense qu'au final, c'est peut-être pire pour Saint-Etienne. Ils sont un peu dans ce problème de l'équipe qui, petit à petit, n'est pas catastrophique. Donc, elle ne fait pas une saison vraiment mauvaise qui demanderait à changer d'entraîneur, je ne sais pas, mais en tout cas de se remettre en question. Elle glisse tout doucement, en fait, dans ces équipes médiocres, tant au niveau du recrutement que du jeu. Et c'est peut-être le plus dangereux pour une équipe, c'est quand ça se fait petit à petit au lieu de se faire d'un coup. Il y a quand même des chiffres extrêmement alarmants pour Saint-Etienne. Hein. Ils sont en attaque, il n'y a pas de souci. Seulement 10 tirs, donc ils sont 17e de Ligue 1 sur ce domaine. Mais 13 tirs concédés par match, donc ils sont aussi 17e là-dessus. Donc même leur défense, qui était un petit peu ce qui les maintenait, qui leur permettait de jamais prendre l'eau, même là, ils sont vraiment pas dans leurs habitudes. Il y a que Metz qui a un ratio plus faible au niveau des tirs, et malheureusement pour eux, c'est la même chose un peu dans tous les domaines, hein. Ils sont vraiment ils ont pas le joueur, même Amouma, bon, le problème c'est que Amouma, il a du mal à faire des saisons pleines
en plus, ouais.
en temps de jeu, parce que sinon il est quand même toujours leur meilleur joueur, largement, mais derrière, bon, des joueurs comme Monet, Paquet, Söderlund, Roux.
Tu vois, là, j'ai les salaires devant les yeux, Julien, tu vois, genre, par exemple, Théophile, Catherine, Roux, Clément, Mbeng, Lemoine et Kevin Monet, Paquet sont tous entre 70 000 et 85 000 euros. C'est un salary cap, certes, qui te bloque à un certain niveau, mais c'est quand même des gros salaires. Tu compares avec Nice où Pléa est à 40 000, Walter est à 35 000, Dalbert est à 30 000, Cyprien est à 30 000. Donc finalement, Nice paye Walter, Cyprien et Dalbert le prix que paye Saint-Etienne quasiment pour Kevin Théophile Catherine. Donc même leur salary cap ne permet pas de faire des très bonnes affaires.
Et on dit souvent qu'une équipe, c'est le plus mauvais joueur d'une équipe qui définit son niveau. Bah, Saint-Etienne, c'est compliqué, ils ont tous le même niveau. Donc du coup, c'est si on devait quelqu'un devait arriver et dire bah qui on change en premier, bah il serait bien peiné.
Non, Christophe, il y a quand même un joueur qui ressort du lot cette saison et qui les sauve alors que leur défense baisse un peu, c'est Ruffier, qui lui est constant
ouais,
par contre. Heureusement, ouais.
C'est amusant parce que c'est une saison vraiment où il y a très peu de gardiens qui sortent du lot, chacun a ses bonnes périodes. Et même quelqu'un comme Cardinal qui fait beaucoup d'arrêts a fait aussi 2-3 bourdes. Et dans l'ensemble, renvoie pas non plus une image de gardien de très haut niveau, c'est un bon gardien. Et sur cette saison, Ruffier, c'est vraiment le seul à faire des matchs notés 8 sur 10 le lendemain. Et où tu te dis, ok, c'est lui qui te gagne 3 points ou 1 point, mais qui en tout cas te sauve derrière, et c'est vrai qu'heureusement qu'il est là, parce que ça vient aussi en écho au stat qu'a donné Julien, c'est-à-dire que si cette équipe-là concède autant de tirs, autant d'occasions nettes, et qu'elle prend pas de but, soit c'est parce que les attaquants font n'importe quoi de l'autre côté, soit c'est parce qu'il y a un bon gardien. Et là, eux ont vraiment un très bon gardien, et heureusement, parce que quand t'as une équipe où tes deux meilleurs buteurs, c'est Berić et Amouma à 3 buts, bah il faut que tu sois capable de gagner 1-0 ou de tenir des 0-0, parce que sinon, dès que tu prends un but, ça devient vite compliqué si tu n'arrives pas à en marquer.
On enchaîne, Stade Rennais avec Raphaël, un changement de cycle ouais. Avec l'arrivée de Gourcuff. 28 points en 19 matchs, 8 victoires, 4 nuls, 7 défaites et une différence de but de moins 3 parce que les défaites, ils n'ont pas fait ça à moitié.
Oui, ils ne marquent pas tellement, hein. Ils gagnent sur des petits scores,
voilà.
Le score est tricky.
Mais une équipe qui, dans le jeu, on sent déjà la patte du nouveau coach.
Alors bon, là, on l'a senti dès le premier match, hein. J'ai regardé en début de saison. Parce que pour le rappeler, Christian Gourcuff a écrit la préface de comment regarder un match de foot. Je vous rappelle que
placé.
C'est Noël, donc si vous avez quelqu'un à qui offrir un bouquin, voilà. Mais j'ai regardé en début de saison et en effet, le style était déjà prégnant dans cette équipe. Alors c'est un 4-4-2, hein, il déroge pas à la règle. Gourcuff, il garde son 4-4-2, il place même des joueurs qui sont pas forcément dans les profils types d'attaquants de pointe. Par exemple, Ntep avait du mal à jouer en pointe au début. Gourcuff, ça lui arrivait de jouer un peu sur le côté en début de saison, maintenant il joue dans l'axe. Mais c'est une équipe qui a des qualités, qui joue bah, comme Gourcuff le veut, c'est-à-dire avec des 4-4-2, du jeu qui passe énormément par les côtés, avec des latéraux, bon, Ludovic Ball qui apporte pas mal, hein, des joueurs qui sont intéressants, des défenseurs qui savent relancer comme Mecher. Voilà, donc c'est une équipe qui est à sa place, je les vois pas faire tellement mieux que ça, parce que bah, en plus Marseille revient bien et on en parlera juste après. Mais en revanche, c'est sympa de voir une équipe de Ligue 1 avec un vrai projet de jeu, clair, avec une équipe qui est capable de prendre le ballon à des bonnes équipes. Il me semble, Julien, que contre Lyon, Rennes avait fait le jeu.
Ils avaient été vraiment bons.
Si je ne me trompe pas, donc voilà, c'est une équipe qui a besoin, elle aussi, de recruter, qui est un peu dans le même délire que Rennes, c'est-à-dire que Saint-Etienne, c'est-à-dire que les salaires sont à peu près équilibrés. Et du coup, à part Ntep, qui est un peu le joueur supérieur, mais qui a du mal à être régulier et qui est souvent blessé, bah, il n'y a pas forcément de joueurs qui sont au-dessus du lot pour t'amener très loin. Mais voilà, mais une équipe qui a un projet intéressant et c'est à suivre parce que je pense que Gourcuff avec un peu plus d'argent qu'à Lorient, ça peut faire au moins dans le jeu des choses sympas à voir. Quoi.
Un peu plus d'argent et des jeunes aussi. Hein. Gourcuff n'hésite pas à en lancer. Moi j'aime
y a,
beaucoup
y a
la.
Nianion derrière, Nianion qui commence à faire des bonnes choses.
J'aime beaucoup aussi le début de saison d'Adrien Hunou.
Oui,
s'est parfaitement intégré.
Oui,
c'est vrai, il a été prêté.
Parce qu'il y a. Il y a 3 ans, j'avais vu ses performances, 3 ou 4 ans d'ailleurs, j'avais vu ses performances au tournoi de Toulon et il était au-dessus du lot dans l'intelligence de jeu, dans la création. Il jouait numéro 10 à l'époque et il a fait des prêts, mais partout en France.
Voilà, il a été prêté.
Ils l'ont envoyé à Clermont, ils l'ont envoyé. Et il jouait pas en fait à Rennes alors qu'ils avaient besoin d'un joueur comme ça. C'est super cool de le voir jouer maintenant. C'est vraiment un plaisir quoi.
Et puis très bon jeu de tête alors qu'il a pas forcément le gabarit. Il en a mis quelques-uns de la tête déjà, notamment face à Marseille, je crois, si mes souvenirs sont bons.
Moi je pense qu'il devrait quand même se libérer de quelques contrats parce que le Stade Rennais ça fait un peu équipe italienne avec 50 joueurs mais sauf que eux n'en ont pas prêté à droite à gauche et je pense qu'ils perdent aussi de l'argent à payer des Bruls, des joueurs comme ça, des Persic qui jouent très peu, je parle même pas des Habibou, Erasmus qui sert pas grand chose non plus, donc je pense que Gourcuff travaillerait mieux en plus s'il avait un groupe un petit peu plus resserré plutôt que d'avoir pas mal de joueurs qui sont là mais qui ont vraiment zéro temps de jeu.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de Vue du banc spécial fin d'année 2016 en Ligue 1. Alors, comme vous l'avez vu, on a traité les équipes de la 20e à la 7e place. Donc rendez-vous après le réveillon et les fêtes de Noël pour la suite, qui sera publiée le 26 décembre prochain, jour du Boxing Day, où on abordera donc les cas de Marseille, de Guingamp, de Lyon, de Paris, de Monaco et de Nice. Bonne fête à tous, salut.